Radio Galaxy 98.5.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre sur Radio Galaxy, la radio des Sud de Toulousain. 2026 est une année un peu particulière parce que ce sont des élections municipales. Et qui dit élection municipale dit beaucoup de changements, beaucoup de continuité dans certains projets, mais aussi beaucoup de réorganisation d'un territoire. Et par rapport à ça, on va parler aujourd'hui de l'organisation du PETR du Pays Sud de Toulousain. On va réexpliquer un petit peu ce que c'est que ce Pays Sud de Toulousain, qu'est-ce que c'est qu'un pays et comment on participe et à quoi il sert. Et pour en parler, je suis avec Gérard Cablanquet. Gérard, bonjour.
Bonjour.
Vice-président donc du PETR Pays Sud Toulousain et Fanny Faucon. Fanny, bonjour.
Bonjour.
Fanny qui est, elle, responsable d'un des services du Pays Sud Toulousain et en même temps coordinatrice. On va voir que le fonctionnement de ce Pays Sud Toulousain est un peu particulier. Alors Gérard Cablanquet, ça fait 18 ans, je crois, que vous êtes au Pays Sud Toulousain. C'est quoi un pays d'abord ?
Alors, d'abord, effectivement, ça fait plusieurs mandats que je suis au Pays Sud Toulousain avec différentes missions. Le Pays Sud Toulousain, c'est une instance créée en 2003, ça fait plus de 20 ans. Au départ, c'était une association du Pays des Trois-Vallées, ça s'appelait. Au départ, ça devait même remplacer les intercos. Et c'est devenu ensuite un PETR, Pôle d'équilibre territorial et rural, qui devait être le pendant des métropoles pour la ruralité. En fait, ça n'a pas tout à fait été ça. Et maintenant, ce qu'est devenu le PETR, c'est vraiment un organe de mutualisation au service des communes et surtout des intercommunalités.
Ici, le Pays du Sud Toulousain, ça correspond à quel territoire ?
Le Pays Sud Toulousain, c'est trois intercommunalités, le bassin Haute-Rivelle, le Volvestre et Cœur de Garonne, 99 communes et 5000 habitants à peu près. C'est entre l'Ariège et le Gers, au sud le Comminges et au nord à la fois le Muretin Aglo et Venerque, le Vernet, ça touche même à la métropole toulousaine.
Des pays, il y en a partout en France ou c'est épars sur le territoire ?
Alors, il y en a partout en France. Mais avec des missions très différentes. Le nôtre est un des plus gros pays, de par la mission que lui ont confié les intercos, les communes, le département ou la région, simplement parce que après tant de temps, il y a un savoir-faire qui lui a été reconnu et du coup, des missions qui lui ont été confiées par toutes ces institutions.
Donc, ce sont bien les communautés de communes qui font des conventions avec le pays pour les soulager, parce que si elles devaient les porter elles-mêmes, ce serait beaucoup plus coûteux pour elles. Comme vous le disiez tout à l'heure, une mutualisation, mais en même temps de pouvoir porter des projets un peu plus gros.
C'est exactement ça. Et le pays a cette faculté de, comment dire, les agents, les chefs de service surtout, qui sont à l'affût des appels à projets nationaux ou régionaux, ce qui permet de tester certaines avancées, certaines nouvelles mission, je pense, par rapport à la mobilité, notamment, ce qui permet de tester des actions pour le territoire. En général, elles sont financées pendant 2 ou 3 ans. Et après, au vu du bilan, les communautés de communes le reprennent à ce moment-là. Il faut financer. Ou alors, on dit, c'était pas une bonne idée et on arrête. Voilà. C'est quand même un laboratoire d'essai important aussi.
Alors, laboratoire d'essai, mais vous venez de signaler justement, c'est qu'il faut financer tout ça. Le pays est une instance collaborative, mutualiste sur le territoire, mais c'est financé comment ?
Alors, c'est pas financé par l'impôt, ça c'est sûr. Ils sont financés par les organismes qui lui délèguent des compétences. Les communautés de communes, je pense au plan climat, je pense au schéma de cohérence territoriale, ça c'est financé par les communautés de communes. Ensuite, pour ce qui est les financements leaders, là c'est carrément les fonds européens qui le financent. Pour le SCOT, c'est une part du conseil départemental et après les communautés de communes. Mais on se rend compte que les budgets diminuent de partout et donc, bien que toutes ces actions soient publiques, on doit reconnaître que le Pays Sud Toulousain, bien qu'étant un organisme public, mais il n'a pas de financement pérenne, malgré les actions qui lui sont confiées et reconnues comme bien faites, et donc les budgets et la trésorerie surtout, parce que certaines sommes qui nous sont attribuées par exemple depuis 2 ans ne sont toujours pas versées.
Ça peut créer des problèmes de trésorerie, oui. On va y revenir tout de suite avec Fanny Faucon, donc la responsable d'un des pôles du Pays Sud Toulousain et surtout la coordinatrice de l'ensemble de ces services. Vous travaillez avec des instances nationales et internationales, avec l'Europe en particulier, pour certains types de financements dont les sommes sont versées quelques années après la réalisation des projets, c'est bien ça?
Oui, c'est tout à fait ça. Donc en fait, il y a toujours un décalage entre le moment où on réalise des actions et le moment où on a le versement des subventions pour ces dites actions.
Alors justement, c'est quoi ces actions? Quelles sont les missions dont on parle tout à l'heure qui sont confiées au Pays Sud Toulousain?
On pourrait parler de la culture en premier, puisque c'est avec la culture qu'on a fondé en fait le pays au tout début, donc en 2003. Pour la culture, c'est la mise en place de saisons culturelles. Donc on réalise des spectacles et des ateliers dans les différentes communes. Donc ça, c'est, on va dire, la première mission. Ensuite, on peut parler, effectivement, on a parlé du leader et des contractualisations avec l'État et la région. Donc le leader, c'est quoi? C'est un fonds européen. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on fait au pays? Eh bien, on trouve des financements pour les projets, pour les porteurs de projets du territoire.
Pour les artistes, les compagnies de théâtre, etc. Ou ceux qui ont des projets culturels ou patrimoniaux sur le territoire.
Voilà, il n'y a pas que des projets culturels, mais il peut y avoir aussi des projets d'ordre agricole. Il peut y avoir des projets liés à la transition énergétique et écologique. C'est assez divers. Ensuite, il y a un autre pôle, donc c'est le pôle énergie-climat. En fait, on met en place ce qu'on appelle le plan climat. Le plan climat, ce sont des actions très concrètes. On a Objectif Réno, c'est l'espace Conseil France Rénov. Donc, c'est comme ça que les gens nous connaissent. Ils viennent nous voir et ont les conseils pour la rénovation de leur habitat, aussi pour le maintien à domicile, l'adaptation des logements. Donc, quels sont les financements auxquels ils ont droit? Quels sont les artisans vers qui ils peuvent aller sur le territoire? Donc ça, c'est effectivement assez connu.
Chose qui est intéressante et importante à signaler également, c'est que c'est toujours des conseils qui sont donnés gratuitement donc aux particuliers ou aux entreprises. Et avec, surtout, vous n'êtes pas payé par les entreprises pour faire la promotion.
On est neutre, gratuit et indépendant. Typiquement, c'est l'État hein, qui cofinance une partie de cette mission. On appelle l'ANA. Ensuite, on a la mission de mobilité durable. Là, on a mis en place des actions Nous Vélos, autour d'un service de recyclage de vélos et de vente de vélos recyclés. Mmh. On a également mis en place des ateliers de réparation de vélos, des ateliers de remise en selle, etc. Réseau Pouce aussi, vous avez dû voir sur tout le territoire des panneaux Réseau Pouce, et pour faciliter le covoiturage. Voilà un petit peu des exemples concrets. On accompagne également les communes dans leurs projets sur les énergies renouvelables, mais aussi sur la rénovation des bâtiments. On fait un peu d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour faciliter le plan de financement et aider au montage de dossiers.
En fait, c'est ça. Vous aidez les communes à monter leurs propres dossiers de financement en fonction de leur projet.
Exactement. En fonction du projet, c'est pour faciliter le passage à l'acte. Parce que c'est très complexe de monter ces dossiers. Il y a besoin d'avoir une ingénierie. Donc parfois, les communes, elles sont suffisamment dotées. D'autres, non. Les plus petites communes, c'est le maire qui fait tout. Donc souvent, les maires sont contents aussi de pouvoir trouver une ingénierie sur qui compter. Il y a également le contrat local de santé. Ça permet de faire du lien entre l'agence régionale de santé et les élus du territoire. Jusqu'à ce jour, il n'y avait pas ce lien très fort entre les élus, donc le territoire et cette agence. Et donc, ça nous a permis de faire sortir de terre, notamment des maisons de santé, mais également d'améliorer le parcours de soins et le bien-être des habitants, en faisant du lien justement entre les professionnels. Et donc, c'est faciliter l'émergence de projets de la même manière.
Je crois que sur le territoire national, ce lien que vous avez pour ce contrat local de santé avec l'ARS en particulier est assez privilégié. Vous avez un rapprochement avec l'ARS sur ce contrat local de santé qui se fait pas partout ailleurs.
Exactement, et donc ça va nous faciliter des subventions qui vont atterrir sur le territoire pour des projets.
Et l'ARS est vraiment partie prenante ici?
Tout à fait, on a une convention avec l'ARS. Ensuite, il y a le pôle urbanisme. Donc sur l'urbanisme, on a la planification avec le schéma de cohérence territoriale. Il y a également tout ce qui est autorisation de droit des sols, c'est-à-dire qu'on instruit les permis de construire pour le compte des communes.
Ça, c'est un service, c'est une prestation que vous faites?
Toutes les communes, normalement, devraient le faire. Quand l'État s'est désengagé, ce sont les communes qui devaient le faire. Et là, les communes se sont mis d'accord pour mutualiser ce service. Et donc, il y a 78 communes qui ont ce service en commun.
Ce qui veut donc dire que vous avez en plus des prestations de services qui sont cette fois-ci rémunératrices, qui permettent de réaliser vos actions.
Uniquement sur la partie permis de construire. On est 24 personnes au pays sud-toulousain et 2 personnes qui sont autour des moyens généraux et qui contribuent à tous ces projets aussi.
Il y a une particularité du fonctionnement de votre pays sud-toulousain. Il n'y a pas de directeur. Vous vous êtes réorganisé pour que ça fonctionne. Gérard, vous avez dû faire face, je dirais, à une réorganisation du service.
Ben c'est ça. Nous avons décidé de fonctionner sans directeur et c'est mis en place donc un comité de direction. Ça fait 1 an et demi. Comité de direction composé des responsables de service et du président ou de son représentant, souvent moi en l'occurrence. C'est-à-dire que c'est vraiment horizontal et il n'y a plus de verticalité, sachant que ce comité de direction, il a plusieurs rôles. Le premier, c'est suite au travail des vice-présidents et de leurs chargés de mission, de leurs techniciens, voir les projets qui seraient bons de discuter. Ensuite, commencer à faire un pré-tri de façon à amener au bureau des sujets qui devront être débattus. Et ensuite, ça, c'est la partie prise de décision politique. Et c'est aussi après toute la gestion qui était dévolue au directeur, je dirais, même au-delà.
Fanny, justement, on sait très bien que sur des organismes publics qui sont en plus à caractère politique, parce qu'il y a quand même des élus derrière, les prises de décision sont toujours complexes. Parce que, ou alors c'est le politique qui impose sa vision aux techniciens ou aux chefs de service de les appliquer, ou alors ce sont, comme à Bercy par exemple, les techniciens qui imposent aux politiques leur mission. Chez vous, ça se passe comment ?
Alors ça se passe très bien, dans le sens où on a pour chaque mission un vice-président ou une vice-présidente. Et en fait, on travaille main dans la main, donc on réfléchit ensemble les projets. Et ensuite, c'est les élus qui nous donnent l'orientation. Nous, on met en œuvre au niveau de chaque service ce qu'ils ont décidé. C'est vraiment ce binôme qui met en place les projets.
Vous travaillez avec un vice-président, donc un élu, pour mettre en place ces projets. Comme le faisait remarquer Gérard Cablanquet tout à l'heure, ensuite ces projets construits sur le papier sont présentés à l'instance supérieure, un bureau, avant d'arriver à l'Assemblée Générale, où là tous les élus donnent leur point de vue sur le projet, c'est ça ?
Bien sûr, donc c'est le bureau qui va valider le fait qu'on se lance dans le projet ou pas. Et c'est le conseil syndical qui va effectivement délibérer sur le fait qu'on prend vraiment ce projet-là et qu'on lui attribue un budget.
Donc là, cette cohabitation, cette mixité entre élus et techniciens, c'est quelque chose qui ne se voit pas partout.
Moi, je ne connais pas effectivement le fonctionnement de toutes les autres collectivités, mais en tout cas, c'est ce que j'apprécie beaucoup au sein du pays.
Gérard, vous vivez ça comme une autogestion ?
Oui, quelque part, c'est ça, même si le mot autogestion, maintenant, il n'y a guère que les plus de 60 ans qui savent ce que ça voulait dire après 68. Mais c'est surtout, il est possible de fonctionner sans avoir de verticalité. Au bout d'un moment, il faut bien prendre une décision, mais toute la construction, elle est le fruit de discussions collectives et pas forcément par le service concerné au pays sur Toulousain. Et je trouve que ça, c'est très important. Parce que avant qu'il y ait cette façon de fonctionner, tout le monde ne savait pas ce que faisait l'autre. Maintenant, je trouve que, notamment quand on débat de projets nouveaux, il n'y a pas qu'un service qui est concerné ou qui va se saisir de ce projet également. Et je trouve que c'est toute la richesse.
D'autant plus que les projets, il y a souvent de la porosité entre eux, entre les prises de décision, entre les financements et entre les acteurs sur ces projets. On a parlé des projets, on a parlé des missions, on a parlé des techniciens, mais alors derrière, il y a les élus. Derrière, il y a les élus qui vont participer à ce PETR, ce pôle d'équilibre territorial rural. Gérard, comment on est élu ? Alors, comment on arrive au PETR ?
Il y a 42 délégués des 3 intercommunalités, autant de suppléants, ça c'est pour la partie comptable, je dirais, et après, ils sont désignés par les intercommunalités. Qui désigne chacune à peu près 14 délégués, dont ce sont des volontaires. Pour moi, être délégué au pays sud-toulousain, quand on est élu, c'est vraiment atypique, je dirais. Parce que le pays sud-toulousain, déjà, ce n'est pas une élection directe, ce n'est pas une institution ou une collectivité qui lève de l'impôt. Et en fait, ce sont les élus qui vont gérer cet organisme mutualiste. Le pays sud-toulousain ne s'interdit aucune mission, c'est-à-dire que peut-être avec le renouvellement, il va y avoir d'autres missions ou d'autres sujets que souhaiteront explorer les élus. Et je trouve que le pays sud-toulousain, c'est vraiment rêvé. C'est 100 000 habitants, 3 intercos et on peut tester de nouvelles actions, de nouvelles missions, sans mettre en péril les finances des intercos. Ce sont des élus qui sont là pour gérer cette mutualisation. Nous, c'est pour les 99 communes. Un exemple, même si c'est beaucoup plus institutionnel, le schéma de cohérence territoriale, le fameux SCOT, qui est en révision, qui arrive au bout, mais ça nous aura pris 6 ans. Et effectivement, là, entre les communes très près du Muretin et les communes au bord du Gers ou de l'Ariège, il n'y a pas du tout les mêmes réalités économiques, sociales et surtout urbanistiques, si j'ose dire. C'est pas la même pression. Donc, ça a permis de construire un document qui prenait en compte toutes ces caractéristiques et ces différences.
Le SCOT en particulier s'adresse sur un territoire qui est beaucoup plus grand, qui prend beaucoup de temps à mettre en place au niveau des discussions, des aménagements du territoire. Ce qui veut donc dire que un pays, étant donné qu'il s'adresse à un plus grand nombre de populations, un plus grand territoire, ça a besoin d'avoir une planification sur du long terme. Vous, qui n'êtes pas à votre première présence dans ce pays va être renouvelé prochainement avec de nouveaux élus. Il y a forcément une volonté de continuité dans le temps, au niveau des projets.
Les projets vont continuer, mais il y en aura d'autres, et notamment les élus, les nouveaux élus, je le répète, il ne faut pas qu'ils s'interdisent d'explorer d'autres actions qui seraient bénéfiques. Moi, je voulais dire aux nouveaux élus, c'est vraiment une réelle chance d'être délégué au pays sud-toulousain. Certes, ça prend un peu de temps, mais quand on est élu, ça prend du temps. Mais une façon de fonctionner et où vraiment on est, en tant qu'élu, du début du projet ou de l'embryon de projet jusqu'à la réalisation, ben, j'en connais pas trop quand même.
Fanny, vous qui êtes en relation directe sur le plan pratique avec des élus, c'est quoi l'apport d'un élu dans votre travail à vous ? Mis à part l'orientation budgétaire et politique.
Bon, c'est un travail d'équipe, en fait. C'est l'équipier ou l'équipière. On est dans la réflexion ensemble sur les projets. Les élus choisissent. On est là dans la co-construction.
Pour ce pays sud-toulousain, ce PETR, ce pôle d'équilibre territorial rural, c'est du soutien aux collectivités, aux communautés de communes, par des missions qui lui sont attribuées d'une part, c'est de permettre des actions qui sont mutualisées et donc forcément moins coûteuses qu'à l'ensemble de certaines de ces communautés de communes, des actions de plus grande envergure et c'est surtout la mise en place d'un partenariat élu-technicien cette fois-ci qui fonctionne véritablement pour porter ces projets, c'est bien ça?
Oui, c'est bien résumé.
C'est ça.
Et donc, j'imagine que vous êtes content d'accueillir de nouveaux élus.
Ah ben oui, moi après 18 ans bon et avec un âge qui commence à s'approcher de la canonisation, bon il est temps de laisser la place. Je vais me répéter, mais l'élu qui va arriver, déjà il n'est pas seul. Il y a ses collègues et surtout les techniciens. Et encore une fois, c'est vraiment un établissement très coopératif, puis-je dire.
Fanny, pour le mot de la fin, si je veux avoir plus d'infos sur le Pays Sud-Toulousain, c'est...
Alors vous allez sur le site du Pays Sud-Toulousain, paysudtoulousain.fr.
Et ben voilà. Fanny Faucon, merci beaucoup.
Merci à vous.
Gérard Cablanquet, merci beaucoup.
Merci à vous.
De Riom à Haute-Rive, de Muret jusqu'au pied des Pyrénées, on écoute Radio Galaxie sur le 98.5 FM.